Attention, attention. Programme spécial. Les ateliers.
Les ateliers.
De l'autre radio.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur l'autre radio. Bonjour si vous étiez déjà là. Il est 15h et vous êtes dans l'émission des autres ateliers radio. Aujourd'hui, littérature. Dans quelques instants, vous allez entendre une classe de 4e du collège Sainte-Thérèse de Laval. À l'occasion du prix littéraire des Incorruptibles, ils ont reçu l'autrice Florence Cadier pour l'interroger sur son parcours d'auteur. Mais pas que, vous allez l'entendre. L'émission littéraire de Sainte-Thérèse, c'est tout de suite sur l'autre radio. Radio.
Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur l'autre radio, dans l'émission littéraire des 4e du collège Sainte-Thérèse de Laval. Je suis Essa Kissalois.
Et je suis Raphaël Moisy.
Vos animateurs et ensemble, nous allons parler de plein de livres de jeunesse. Ils sont issus de la sélection du prix des Incorruptibles, un prix né dans les années 80 et consacré à la littérature jeunesse. On va donc parcourir ensemble cette sélection avec tous mes camarades. Vous allez entendre leur chronique pour vous présenter la sélection.
Vous entendrez également des lettres sonores. Nous les avons écrites et enregistrées pour nos camarades de Mayenne. Et nous avons une invitée très spéciale dans cette émission. Elle s'appelle Florence Cadier, elle est autrice et elle se retrouve dans la sélection Incorruptible pour son roman Né coupable. Bonjour Florence Cadier.
Bonjour.
Merci de nous accompagner pour cette émission. On a beaucoup de questions à vous poser.
Très
sur
bien.
Votre parcours, votre métier et aussi sur le roman Né coupable. Et pour commencer, on aimerait en apprendre davantage sur vous avec des questions plutôt binaires. Elles seront posées par Tineo et Marine.
Bonjour Florence Cadier.
Bonjour.
Bonjour Marine.
Du coup, on va vous poser quelques questions sur votre vie en général. Donc, première question, vous êtes plutôt ville ou plutôt campagne ?
Campagne, sans hésiter.
Et pourquoi ?
Parce que j'aime la campagne, j'aime les arbres, je vis près de la forêt d'Orléans. En bord de Loire, donc je suis vraiment campagne. J'aime moins la ville avec le bruit, le stress, j'ai besoin de calme.
Vous préférez la littérature jeunesse ou la poésie ?
Ah, les deux. J'aime les deux. Je crois que j'aime beaucoup la littérature jeunesse. J'achète beaucoup d'albums, de romans jeunesse. Mais j'aime beaucoup la poésie également. Non, c'est un choix trop difficile.
Ok.
Je ne sais pas.
Troisième question, vous préférez la presse écrite ou la presse audiovisuelle ?
La presse écrite.
Pourquoi cela ?
Parce que, en fait, j'aime bien le côté audiovisuel avec le... j'ai été journaliste audiovisuel, donc je sais qu'au montage, on peut faire parler les images, on peut faire parler également les gens. Et faire des montages différents avec les voix. Et j'ai plus confiance en la presse écrite, je crois.
D'accord.
Vous êtes plus mer ou montagne ?
Mer.
Pourquoi ?
Parce que j'aime la mer. J'aime les vagues. J'aime me baigner. J'aime avoir de l'eau salée sur la peau. Voilà. J'aime l'odeur aussi. L'odeur... Des algues, du goémon, j'aime la mer. Mais la mer, j'aime l'océan Atlantique.
Vous préférez écrire des histoires ou les raconter ?
Écrire des histoires. Parce que je peux laisser libre cours à mon imagination. Donc, et puis j'aime bien, alors c'est un métier très solitaire, c'est vrai, mais j'aime bien cette solitude en même temps, j'en ai besoin. Donc je préfère écrire des histoires.
Vous êtes plus café, thé ou chocolat chaud ?
Café.
Pourquoi ?
Parce que ça me donne de l'énergie.
Avec ou sans sucre, le café ?
Sans sucre. Vous ne me demandez pas pourquoi ? Ah ah ! Pourquoi sans sucre ? Parce qu'il y a quelques années, j'avais pris beaucoup de kilos et donc j'ai évité le sucre dans le café. Et j'ai pris l'habitude.
Avez-vous enfants ou petits-enfants ?
Les deux.
Eh bien, merci d'avoir
répondu à nos questions.
Merci à vous.
Bonne journée, au revoir.
Merci, au revoir.
Merci Tino et Marine et merci Florent Cardier pour vos réponses. On passe maintenant à notre première chronique littéraire avec Terokeo et Alice. De quel livre allez-vous nous parler ?
Nous allons vous parler du livre Olympe de Roquedor. Le titre, c'est peut-être en rapport
avec le nom de son héroïne, Olympe de Gouges, une femme politique et écrivaine du XVIIIe siècle qui a défendu le droit des femmes. Les auteurs de ce roman sont Jean-Philippe Vigneault, qui a écrit l'histoire, et le dessinateur François Place, qui a illustré cette histoire. La maison d'édition est Gallimard Jeunesse.
C'est une histoire d'action. Olympe vit au couvent de Sainte-Cécile, aux dames, et doit se marier. Mais elle doit s'échapper pour éviter le mariage. Elle va raconter toutes sortes de personnes, un ex-soldat, des villageois et d'autres connaissances. L'histoire se déroule dans la région de l'Azeille, dans les Pyrénées.
Nous avons beaucoup apprécié ce livre, car le personnage d'Olympe est extrêmement intéressant. Il montre une jeune fille aventureuse, qui n'a peur de rien et qui ose beaucoup de choses. Olympe est un exemple pour nous, jeunes filles d'aujourd'hui. Elle nous montre une autre facette des femmes de cette époque. Ses deux compagnons sont aussi très intéressants. Mention spéciale au Capitaine Décembre, un personnage très mystérieux qui emmène du suspense dans l'histoire.
Nous avons quand même une petite réserve à propos de ce livre. Il est trop historique à notre goût. Nous préférons les romans de fiction. De plus, j'ai lu Nez coupable et je l'ai préféré car il y avait un côté dramatique.
Merci Théroquillo Alice. Je vous propose une petite pause dans cette émission. On va écouter une lettre inspirée du livre Olympe de Rocodore. Elle est adressée à des camarades collégiens de Mayenne et elle est écrite par Léa et Méloé.
À Léontine, dans la forêt de Rocodore, à Aslan.
Ma chère Léontine, je voulais prendre de vos nouvelles. Si vous manquez de quelque chose, n'hésitez pas à me demander plantes, fleurs, potions ou même de l'argent. Je m'inquiète tellement pour ma fille depuis qu'elle est partie. J'ai une vague impression que la famille Saint-Même est en train de monter un coup derrière mon dos au sujet de ma fille. Je n'ai plus confiance en cette famille.
Puis-je vous rappeler comment j'ai éduqué ma fille ? Je ne l'ai pas éduquée comme toutes les filles, mais avec plus de liberté, plus d'éducation, comme si elle était un garçon. Rappelez-vous, vous étiez sa nourrice à l'époque. Dois-je venir vous voir pour plus de conseils ? Avez-vous confiance en la famille Saint-Mèze ? Redites-moi si vous avez besoin de quelque chose.
Bien à vous, Monsieur Damien de Roquedor.
Voilà pour cette lettre inspirée du roman Olympe de Rocodore, écrit et illustré par François Place et Jean-Philippe Arouvignot.
On continue cette émission littéraire. Notre invitée, Florence Cadier, est autrice. On va continuer à vous découvrir, Florence Cadier, avec les questions de Léa, Maëlle et Méloé.
Bonjour Florence Cadier.
Bonjour.
On va vous poser des questions sur votre parcours d'auteur.
Quelle étude avez-vous fait ?
Alors, au niveau des études, il n'y a pas d'études spécifiques pour devenir auteur ou autrice. Il faut énormément lire en amont. On peut faire des études de lettres, mais voilà, moi j'ai pas fait des études de lettres, j'ai fait des études d'anglais, et puis j'ai fait une formation de journaliste. Et donc, et puis après j'ai toujours énormément lu, et j'ai adoré écrire, donc voilà, je pense que j'ai appris aussi seule.
Vous étiez auparavant journaliste ?
Oui.
Pourquoi vous aviez choisi ce métier ?
Parce que c'est un métier qui demande beaucoup de curiosité. C'est un métier qui bouge, où on bouge énormément, où on apprend des nouvelles choses, on rencontre des nouvelles personnes. Comme je suis quelqu'un de très curieux, ça me convenait énormément. Et puis, j'écrivais, j'ai été en presse écrite, donc j'écrivais, j'aimais ça.
Quand avez-vous commencé à écrire ?
J'ai commencé à écrire enfant, j'écrivais de la poésie, j'écrivais des petits textes et tout, mais j'ai publié plus tard, mais j'ai toujours écrit. Mais j'ai eu un petit peu de mal à montrer mais ce que j'écrivais. J'avais un petit peu peur du jugement des autres.
Qui vous a donné envie d'être écrivaine ? Des proches, d'autres auteurs ?
Des proches, je pense. Il y avait beaucoup de livres chez moi. Donc ça a beaucoup joué. Et puis j'avais une grand-mère qui écrivait de la poésie, qui était éditée également, et donc qui m'a donné l'amour de la littérature. Donc je pense qu'elle m'a poussée également. Je lui ai montré mes écrits quand j'étais enfant, et elle ne s'est jamais moquée de moi. Je pense que ça, c'était important.
Vous avez toujours aimé écrire et lire des histoires ?
Toujours. Mais surtout, j'adore lire. J'adore ça. Et donc, je suis toujours avec un, deux, trois livres sur moi, parce que j'aime bien, quand j'en ai fini un, avoir le choix de choisir le suivant. Et donc, j'ai toujours des livres autour de moi, toujours.
Combien de livres avez-vous écrit ?
En comptant les albums, c'est-à-dire les livres qui sont illustrés, j'en ai écrit une cinquantaine.
Merci.
Merci.
On accueille maintenant nos prochaines chroniqueuses, Amy et Clémence. Vous nous présentez un roman qui nous emmène au 19e siècle.
Bonjour Florence Cadier.
Bonjour.
Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre d'un éditeur qui se nomme Fleurus. La maison d'édition se trouve à Paris. L'écrivaine Sophie de Mulhem a donné comme nom à son roman de 233 pages, Léon et Gustave au cœur de la mine. Nous avons beaucoup aimé ce roman d'aventure, de suspense et d'amitié. Léon est un garçon de 12 ans, il est fils et petit-fils de mineur. Pour lui, l'avenir est tout tracé, il sera mineur. Mais Léon va à l'école et contrairement à ses parents, il sait lire et écrire. Il lit beaucoup, surtout le journal sur Gustave Eiffel et ses travaux.
À mesure que l'immense tour s'élève, le rêve de Léon s'agrandit. Il veut devenir apprenti dans les ateliers de Gustave Eiffel. La famille de Léon, pourtant, est loin de partager son enthousiasme. Plus vite le garçon travaillera à la mine et plus vite il apportera des sous à la maison. Un jour, son père lui lance un ultimatum. Soit il descend à la mine avec lui, soit il vend sa jument cachou pour qu'elle aille travailler à la mine à sa place. Ce roman passe par la colère, la tristesse, mais aussi l'espoir, l'empathie, l'amour et la joie. Cette pauvre famille dévoile la misère du 19e siècle pour les mineurs. Il permet de découvrir la vie en 1888 pour les petits et les grands. C'est vraiment super intéressant, ça s'appelle Léon et Gustave au cœur de la mine de Sophie de Mulhem.
Et c'est sorti aux éditions Fleurus. Merci Amy et Clémence. Je vous propose maintenant d'écouter la lettre sonore inspirée de ce roman. Elle est de la main de Zoéline et Héloïse.
À Léon Sabourin, Paris, 28 rue Jean-Nico.
Notre cher Léon, on espère que tu vas bien. Tu as dû beaucoup changer. Cela fait déjà un an que tu es parti et tu nous manques beaucoup. On espère que la construction de la tour Eiffel se passe bien et que tu t'es pied bien à l'atelier. Paris doit être une ville magnifique, surtout à cette période de l'année. Cela doit tellement te changer de la campagne avec tous ces grands bâtiments.
De notre côté, tout va bien. Ton père est sorti de l'hôpital il y a 3 jours. Il s'est bien rétabli. Ton petit frère, Jean, collectionne tous les journaux sur toi et la tour Eiffel. Marie travaille toujours à la mine. Elle s'occupe bien de Cachou. Elle va la voir tous les midis. Quant à Cachou, elle se plaît bien dans la mine. Elle est devenue la jument la plus indispensable de la mine. Marie pense fort à toi et espère bientôt te revoir. Tu nous manques beaucoup. Est-ce que nous nous reverrons bientôt ? Nous l'espérons. Nous sommes tellement fiers de toi. Tu as réussi à réaliser ton rêve. Mais maintenant, quel est ton rêve ? Nous sommes sûrs que c'est un rêve magnifique et que tu l'accompliras bientôt. Nous espérons que tu t'es fait de nouveaux amis à Paris.
Nous t'aimons fort. De tes parents qui t'aiment.
Thank you.
Vous êtes sur l'autre radio, dans l'émission littéraire du Prix Incorruptible. Nous sommes en compagnie de Florence Cadier, autrice de nombreux livres jeunesse. On va maintenant découvrir vos goûts, en tout genre, Florence Cadier. En compagnie de mes camarades, Eva, Wissem et Raphaël Baloche.
Quand vous étiez plus jeune, adoriez-vous lire ? Il y a un livre qui vous a touché ou marqué ?
Quand j'étais plus jeune, oui, je lisais beaucoup, énormément. Mais même quand je suis moins jeune, je lis quand même beaucoup. Un livre jeunesse ou un livre en...
Peu importe.
Peu importe. En jeunesse, ce que j'ai énormément aimé, c'est Le Chagrin du roi mort de Mourlevat. Et en littérature générale, ce serait Cent ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez.
Quel type de livre aimez-vous lire ?
Des romans historiques, des romans policiers, des BD. J'adore la BD également.
Avez-vous un auteur qui vous a beaucoup inspiré ?
Non, beaucoup d'auteurs m'ont inspiré. Beaucoup d'auteurs m'ont... Mais c'est pas inspiré, ils m'ont beaucoup... Je me suis nourrie de beaucoup d'auteurs très différents. J'aime la littérature anglo-saxonne, mais j'aime la littérature russe. J'aime la littérature, espagnole. Il y a des auteurs africains que j'adore. Enfin, je me nourris de beaucoup de littératures différentes. Il n'y a pas un auteur.
Avez-vous un livre de chevet qui ne vous quitte jamais ? Si oui, lequel ?
Ah ben non, j'en ai pas. Donc, non, j'en ai pas de livre de chevet qui me quitte jamais. Non. Non, c'est vrai, ça roule, ça tourne.
Vous aimez écouter de la musique. C'est qui votre artiste favori ?
J'adore écouter Queens et Bach. Jean-Sébastien Bach.
Ok.
Merci.
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 Merci Eva, Wissem et Raphaël. On accueille maintenant Lila et Rosemary pour une nouvelle chronique littéraire. Elle est consacrée à votre roman, Florence Cadier. Alors les filles, vous en avez pensé quoi ?
Pour nous, c'est un roman à lire au moins une fois dans sa vie. Il fait vraiment prendre conscience du racisme dans les années 50 aux États-Unis. Si vous adorez les romans policiers, il est vraiment fait pour vous. Il combine tout ce qu'on aime. Suspense, intrigue, et en plus, il est très facile à lire.
Ce superbe roman met en scène un garçon à la peau noire nommé George. Il s'est fait arrêter pour un crime qu'il n'a pas commis, juste pour sa couleur de peau. Deux fillettes blanches, à qui George avait indiqué le chemin, sont retrouvées mortes quelques heures plus tard.
George devient alors le coupable idéal pour le shérif blanc. La mort de ces petites filles révolte la communauté blanche qui réclame le lynchage de George. C'est un roman plein de retournements, très touchant, on ne vous en dit pas plus.
L'autrice a parfaitement écrit ce roman. Elle nous fait comprendre toutes les injustices qui existaient à cette époque envers les Afro-Américains, dans une période appelée la ségrégation. On sent que vous y avez mis tout votre cœur.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci Lila et Rosemary. On va continuer de parler de ce roman Né coupable, comme on a la chance d'avoir son autrice à notre micro. Ethan, Nathan et Nolan ont quelques questions à vous poser. Mais avant, une petite lettre sonore inspirée du roman, réalisée par Lila et Rosemary.
Lettre à Georges, prison de Columbia. Salut Georges, j'espère que tu liras cette lettre. Sache que moi, ma mère et toute ta famille savons que tu es innocent. On fait tout pour te sortir de là. Ta mère s'occupe bien de Lizzie, je pense que tu lui manques aussi. Ton frère a trouvé un travail pour aider tes parents. Et sache que quand tu rentreras, on fera une grande fête avec tous les copains. Il y aura de la musique et même des bonbons. C'est tellement injuste tout ça. Comment tu le vis ? J'attends le procès avec impatience. Je ne dors plus la nuit. Toute cette haine, tout ça pour notre couleur de peau. Ils t'ont accusé sans preuve. C'est ignoble, inhumain. Courage, Georges. J'attends le procès avec impatience. Je ne dors plus la nuit. On s'inquiète tous pour toi, tu nous manques beaucoup. On pense énormément à toi. C'est différent sans ta joie de vivre. J'ai perdu mon sourire. Je me rends compte que j'ai besoin de toi pour être heureuse au quotidien. Et toi ? Je t'aime, June.
Merci Lila et Rosemary pour cette lettre. On va donc en apprendre davantage sur ce livre. Les questions à son auteur Florence Cadier par Ethan, Nathan et Nolan.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre ?
Ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre, c'est une discussion avec des jeunes de 3e, une discussion sur la peine de mort. Et les jeunes à qui j'ai demandé leur opinion m'ont dit, on est contre la peine de mort, mais... Et le « mais » me dérangeait parce que la peine de mort, à mon avis, ça n'engage que moi, hein, c'est un sujet où on est pour ou contre. On ne peut pas avoir un avis mitigé. Donc voilà pourquoi j'ai eu envie d'écrire contre la peine de mort.
Est-ce que vous avez bien aimé l'écrire ?
C'est un livre qui m'a beaucoup porté. En même temps, ça a été très difficile de l'écrire parce qu'on raconte l'histoire de l'exécution d'un jeune de 14 ans. Donc c'est très émouvant, mais ça m'a mis aussi très en colère. Donc oui, ça a été un livre très porteur pour moi, dans l'écriture.
Pourquoi avez-vous choisi ce livre ? Ces noms pour les personnages ?
À part quelques personnages qui ont été inventés, ce sont les vrais prénoms, les vrais noms de famille également. Donc j'ai essayé de coller au plus près de la réalité, sachant qu'il y avait quelques articles de journaux dans les années 44, et puis quelques articles qui ont été faits quand on a rouvert le procès. Mais il n'y a pas grand-chose comme documentation sur Georges.
Pourquoi avez-vous choisi le sujet du racisme ?
Parce que c'était la réalité, en fait. Un livre contre la peine de mort, c'était l'histoire de Georges qui était une erreur judiciaire avant tout. Donc maintenant, il s'avère que Georges était noir et que dans ces années-là, en 1944, les noirs étaient les coupables idéaux. C'était vraiment tout trouvé. Et donc ça rejoint en plus, non seulement c'est une injustice et une erreur judiciaire, mais en plus... C'est du racisme, parce qu'il a été arrêté parce qu'il était noir. Et c'est un sujet, le racisme, pour lequel je milite beaucoup contre. Donc ça rejoignait un petit peu aussi ce que je ressens et ce pourquoi j'écris.
L'avez-vous déjà connu ou vécu ?
Alors Georges, non. Si c'est ça, non, mais le racisme, la différence, j'ai vécu. Pas le racisme... Au niveau de la couleur de la peau, non. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'exemples autour de moi. Puis il suffit d'ouvrir les yeux, de regarder. Du racisme, il y en a tous les jours, même encore en 2023. Et puis, il suffit de lire les journaux. Et puis, la différence, j'ai connu la mise à l'écart parce que différente. Parce que c'était une histoire de culture... Mais j'avais une culture protestante dans une église, dans une école catholique, et j'ai été mise à l'écart parce que j'étais de culture protestante. Donc j'ai connu ça, oui.
Avez-vous déjà fait d'autres livres sur le sujet du racisme ou de la ségrégation ?
Sur le racisme, oui. Le rêve de Sam, qui est paru en 2008, et c'est l'histoire de jeunes qui combattent aux côtés de Martin Luther King pour l'obtention des droits de vote et des droits civiques. Et donc, il a quelques années quand même, mais oui, c'est un autre sujet contre le racisme.
Merci.
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 L'émission littéraire du Prison Incorruptible, ça continue sur l'autre radio. On passe au prochain roman, qui nous plonge dans les années terribles de la Seconde Guerre mondiale. Joachim, Kenzo et Leonis, c'est à vous.
Bonjour, nous allons vous présenter la chronique des enfants de Lutetia. Ce livre a été écrit par Rachel Corombly et édité par la Maison du Mercredi. Nous avons bien aimé ce livre car il y a beaucoup d'action et d'aventures. Nous avons bien aimé ce livre aussi car l'histoire est passionnante. Ça raconte l'histoire des Juifs et des camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Cela est très passionnant.
Cette histoire nous fait penser un peu au journal d'Anne Frank, dans lequel on parle aussi des Juifs. Nous avons trouvé ça intéressant et bien car le livre n'est pas trop long et il se passe beaucoup de choses et il y a beaucoup de suspense.
Nous avons aussi trouvé très intéressant le réalisme dans cette histoire où l'on se croit dans la scène car elle décrit le moindre détail. Et puis ce livre est super facile à lire et très émouvante. Nous aimerions une suite à cette histoire.
Et comme depuis le début de l'émission, on accompagne cette chronique d'une lettre sonore. Elle est réalisée par vous, Kenzo et Laonis.
Lettre à Léopold, hôtel du Lutetia. Cher fils, nous allons bien pour le moment et nous profitons d'avoir encore la possibilité de t'écrire pour t'adresser quelques mots, même si nous ne trouvons pas les mots pour décrire notre douleur d'être séparés de toi. Si tu savais tout l'amour que l'on te porte, tu es la plus belle chose que nous ayons faite. Nous repensons à tous nos moments de bonheur et de joie vécus ensemble. Et c'est ça qu'il faut que tu gardes dans ton cœur. Mais nous regrettons rien de ce que nous avons fait. Notre résistance, notre engagement. Nous avons fait des choix en connaissance de cause. Des actes que nous choisissons d'accomplir, c'est notre liberté. Tu dois te souvenir de ça. C'est ça qui nous grandit et qui nous rend forts, mon fils, mon amour. Tout ce que je pourrais te dire, c'est que nous ne mourrons jamais vraiment. Nous serons toujours avec toi, auprès de toi.
Mon fils, nous aimerions pouvoir venir et te prendre dans nos bras, ne serait-ce qu'une dernière fois. Tu nous manques tellement. Nous espérons que Juliette prend soin de toi et t'aide quand tu en as besoin. Qu'elle est gentille et t'honore bien. Ton père et moi t'aimons plus que tout. Tu es notre bébé. Notre amour pour toi est indéfectible et si tu en doutes, pense que nous serons là pour te soutenir dans tous tes choix, peu importe ce que tu veux devenir. C'est sûrement notre dernière lettre. Nous ne pourrons peut-être plus écrire ensuite. Aussi, cette lettre nous permet de te dire que nous n'avons aucun regret. Nous avons toujours rêvé d'une vie meilleure et souviens-toi qu'on t'aime. Si tu nous gardes dans ton cœur, alors nous ne serons jamais morts. Ton père a laissé un dessin de lui qui te protégera toujours. Et souviens-toi aussi que quoi qu'il arrive, on t'aime et nous t'aimerons toujours. Au revoir mon fils, en espérant te revoir un jour. Sophia et David.
Lettre inspirée du livre « Les enfants du Lutetia » de Rachel Kornblit.
When something so near and dear to life explodes inside, you feel your soul is set on fire. When something so deep and so far and wide falls, to face it all.
dear to your life explodes inside. You feel your soul is burned alive, burned alive. When something so deep and so far and wide falls down beside, your cries can be heard so loud and clear. Your life is your own, you're in charge of yourself, master of
Nous sommes en compagnie de Florence Cadier, autrice du roman Né coupable. On aimerait en savoir davantage sur vos techniques d'autrice, si vous en avez, bien sûr. Vous passez maintenant à la moulinette des questions d'Héloïse et de Zoéline.
Bonjour Florence Cadier.
Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous poser des questions sur les techniques d'autrice.
Comment écrivez-vous des livres? Vous avez des rituels pour écrire?
Non, j'ai pas de rituel, du tout. J'ai aucun. En fait, s'il y a une chose dont j'ai besoin, absolument, c'est de calme. Je besoin de aucun bruit, aucune musique, rien. J'ai besoin de calme, tout simplement. Mais j'ai pas de rituel, non. Je fais pas le tour de la table à cloche-pied. Je mets pas des petits gris-gris partout. Non, c'est pas encore. Mais peut-être ça viendra. Hein. Qui sait?
Écrivez-vous toute seule?
Oui, toute seule. C'est un travail très, très solitaire, l'écriture. Donc, on est face à soi, face à l'histoire. Mais bon, pour que l'imagination fonctionne, moi, j'ai besoin d'être toute seule. Et puis, je dois vous avouer que je parle à voix haute. Donc, c'est mieux d'être seule quand je me parle à voix haute.
Combien de temps mettez-vous pour écrire un livre ?
Entre 6 mois et 1 an. Ça dépend si c'est un livre qui me demande beaucoup de documentation en amont. Quand je parle, par exemple, de l'histoire de Martin Luther King, en amont, j'ai dû me documenter énormément sur tous les combats qu'il a menés. Donc j'ai dû lire énormément de documents avant, de livres. Parfois, quand c'est que de la fiction, c'est un petit peu moins long parce que je laisse courir mon imagination. Mais je ne suis pas très rapide.
Quelles sont vos techniques pour trouver l'inspiration et pourquoi ces techniques ?
J'ai pas de technique en fait. Je pense que l'inspiration, elle vient de tout ce que j'ai lu, de tout ce que je vois, de tout ce qui m'intéresse. Je trouve que l'inspiration, ça a un côté un peu magique. Il n'y a pas de... Ça vient. Pourquoi à ce moment-là on est inspiré ? J'ai pas... Et pourquoi on a un déclic tout d'un coup ou envie d'écrire sur tel sujet ? Je sais pas. Je pense qu'il faut beaucoup de curiosité. Il faut aussi accepter ce qu'on nous donne, ce qu'on prend en soi, vouloir le restituer. Mais non, j'ai pas de technique parce que je pense qu'il y a un côté très inconscient.
Faut-il énormément d'imagination pour écrire des livres ?
Énormément, il faut de l'imagination. Oui, mais il suffit. Mais tout le monde a de l'imagination. Il suffit aussi de se reconnecter avec ce qu'on était, par exemple, quand on écrit pour la jeunesse, à ce qu'on était quand on était enfant. Vous aviez de l'imagination, vous. Dans les cours de récréation, vous étiez capable de jouer chez vous. Vous inventiez des personnages. Ben, c'est la même chose, l'écriture. On invente des personnages, on leur donne vie. Il suffit de se reconnecter avec soi. Je crois que c'est ça qui est important. Mais tout le monde a de l'imagination. Ça, j'ai du mal à croire. J'entends parfois des enfants dire « j'ai pas d'imagination, je sais pas quoi écrire ». C'est faux. Reconnectez-vous avec ce que vous êtes profondément. Vous verrez que vous en avez.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Un autre roman qu'on retrouve dans ce prix littéraire, incorruptible, c'est Le Talent d'Achille, un livre présenté par Raphaël et Gino.
Ce livre, édité par les éditions Didier Jeunesse et écrit de la main de Pascal Router, il est plaisant à lire. Cet effet est donné par un humour accompli, une compréhension des points de vue, un attachement à tous les personnages. La dichotomie est absente, tout n'est pas noir ou blanc. L'histoire est intéressante et les relations touchantes. Il existe plusieurs niveaux de lecture. Malheureusement, l'histoire est cliché et prévisible. Mais les qualités rendent ce livre bon, voire très bon.
L'histoire ne correspondra pas à tout le monde. Un jeune adolescent qui apprend la poésie pour plaire à sa dulcinée, qui joue au foot en partant du plus bas, qui apprend des choses sur la vie de Monsieur Finkel, un ancien riche ayant un problème de santé. C'est un livre aux personnages bien écrits, avec des relations bien écrites et attachantes. Ce livre s'appelle Le Talent d'Achille de Pascal Rutter et édité par les éditions Didier Jeunesse. Je l'ai bien aimé, donc je le vous conseille.
Et ce livre, Raphaël, ça t'a inspiré une lettre sonore que tu as écrite pour nos camarades collégiens de Mayenne. On t'écoute.
Lettre à Odette Rossignol. Bonjour Odette, ou Sarah si tu veux ton vrai nom. J'espère que ma tentative de meurtre ne va pas t'empêcher de me lire et que tu ne vas pas mettre cette lettre à la poubelle. Je t'écris cette lettre non pas parce que tu me manques, mais pour te présenter ma nouvelle équipe de petits mecs et te parler d'un gosse formidable, Achille. Achille est le goal de l'équipe, c'est celui qui m'a montré le talent de son groupe. Achille est un petit gars que je connais depuis un moment. Il m'aide à faire mes courses, passe un peu de temps avec moi. Bref, il est sympa même si c'est un sacré fouineur. Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu son équipe jouer. Ce n'était pas terrible. Une contre-attaque prévisible, des tentatives de but timides et un goal ne voulant pas bouger. Mais le plus gros défaut est le manque de confiance en eux. Parce qu'ils ont un bon potentiel, ces petits gars. Le 5-0, ou le 6-0, je ne sais plus, ne m'a pas rebuté. Après tout, rappelle-toi, Adrien était devenu un excellent joueur, donc je ne perds pas espoir. Pendant un entraînement dernièrement, un buteur a fait une magnifique retournée. Sans vouloir me vanter, ça m'a rappelé quand je jouais et que j'ai mis mon premier but. C'était une journée brumeuse de 1 pour l'équipe adverse. J'étais seul avec le ballon, quand un ailier m'a taclé et a repris le ballon. Mais Adrien me l'a renvoyé. Balle trop haute, c'est alors que j'ai fait une retournée et j'ai égalisé le score. J'étais très fier. Mais revenons à ce pourquoi je t'écris. Donc, j'entraîne depuis peu cette équipe et j'ai besoin que tu me soutiennes. Cette lettre, c'est pour que tu comprennes ce que je vis actuellement. Je n'attends pas vraiment à ce que tu me répondes, même si j'aimerais tellement savoir comment tu vas, si tu es heureuse. En fait, je voulais te demander de continuer à m'envoyer de l'argent comme tu le fais depuis longtemps maintenant. Mais je veux que tu saches que cet argent va servir à financer la participation de ces petits gars à un tournoi qui leur est cher. Je suis sûr qu'avec l'entraînement que je leur donne, ils peuvent le gagner et je serai le plus heureux des hommes si cela arrive. Je te tiendrai au courant de notre réussite. Je sais que tu ne vas probablement pas me répondre, mais je voudrais savoir comment ça se passe là où tu es. Pourrais-je réécouter une de tes histoires personnelles que mon cerveau rouillé a oubliées? As-tu déjà eu des contacts avec la poésie comme Achille? Bien affectueusement, ton dévoué Franck. Le Talent d'Achille, roman de Pascal Router aux éditions Didier Jeunesse. On arrive presque à la fin de cette émission littéraire. Nous sommes toujours avec notre invitée, Florence Cadier, autrice, et c'est maintenant la condition d'autrice que je souhaite aborder avec vous.
Alors bonjour,
bonjour.
Nous avons quelques questions à vous poser sur votre condition d'auteur. Avez-vous un autre métier à côté de celui d'autrice?
Alors maintenant, non. J'ai été journaliste pendant très longtemps. Donc j'ai fait les deux. Ensuite, j'ai quitté le journalisme et j'ai fait énormément d'ateliers d'écriture avec des jeunes qui venaient en classe verte. C'était des classes, ce qu'on appelle les classes transplantées. Et pendant une semaine, on écrivait un livre. Et puis maintenant, non, je me consacre à l'écriture. Je n'ai pas d'autre métier. Okay.
Est-ce que vous avez dû sacrifier des choses que vous aimiez faire ?
C'est-à-dire ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Pour faire votre métier d'autrice.
Le métier d'autrice que j'aimais faire, non. Justement, non. Parce que j'aimais pas être... j'avais du mal à être salariée ou enfermée dans un bureau ou de pas avoir de liberté. Donc le métier d'autrice, c'est un métier où tu as toute ta liberté. Le sacrifice, c'est que... on n'est pas, on n'est pas salarié, on n'a pas, on ne sait pas comment sera fait l'année, de quoi sera fait le mois suivant ou l'année suivante. Donc j'ai sacrifié une tranquillité d'esprit peut-être.
Est-ce que vous écrivez quand vous en avez envie ou vous avez des obligations, par exemple avec votre maison d'édition?
Alors je peux avoir, j'écris vraiment quand j'en ai envie. Ça, c'est sûr, c'est ma grande liberté. Après, quand je travaille, par exemple, pour la presse, comme Bayard, Je Bouquine, je sais pas si vous connaissez Je Bouquine, j'ai des obligations de rendu. C'est-à-dire que je dois rendre un texte pour le mois de janvier. Mais bon, c'est pas des énormes obligations, ça va. C'est assez confortable.
Est-ce que c'est difficile d'être auteur ?
C'est un métier où on doute beaucoup en fait parce que effectivement j'ai toujours cette liberté d'écrire, ce moment assez jouissif d'écrire quand je veux et de raconter des histoires. Maintenant, je sais pas si mon histoire va être publiée. Je sais pas si un éditeur va être intéressé par cette histoire. Donc il y a toujours cet inconnu. Et puis, quand un éditeur refuse un texte, c'est toujours décevant. Donc, c'est un métier avec des risques, quelques risques de travailler sur une histoire pendant plusieurs mois pour que cette histoire ne soit jamais publiée.
Comment ça fonctionne, la rémunération d'une autrice ?
On a des droits d'auteur. Donc sur un livre comme Les Coupables qui est à 14 euros, je dois avoir 6 à 7% de droits d'auteur. Donc ça fait à peu près 80 centimes d'euros par livre vendu, sachant que je reçois une avance sur les droits d'auteur qui s'appelle un avaloir et que cet avaloir est dû à l'auteur. Donc si le livre se vend mal, l'avaloir me reste. Si le livre se vend bien, je rembourse l'avaloir sur les droits d'auteur. Et les droits d'auteur, on les touche une fois par an. Donc c'est pas un métier où on fait fortune. Ou alors, il faut avoir des prix, faut avoir le prix Goncourt ou prix Nobel de littérature aussi, c'est pas mal.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci.
On passe à la dernière chronique littéraire de cette émission, un roman plein d'aventures et de mystères, présenté par Thibaut, Rodrigue et Bérénice.
Bonjour, nous allons vous présenter La 13e Maison des Bradley. La 13e Maison des Bradley est écrite par Amber Lee Dodd. Elle est écrivaine, dramaturge, britannique et dyslexique. Et justement, quand elle était petite, elle détestait lire. Maintenant, elle est autrice pour la jeunesse et elle adore ça. Elle a publié 3 romans, dont 2 chez l'éditeur anglais Scholastic.
La 13e Maison des Bradley, ça raconte quoi ? C'est l'histoire d'une famille maudite. Les Bradley y cherchent à se libérer d'une malédiction qui date de l'époque de leurs ancêtres. Noah, le fils aîné de la famille, va alors essayer de lever cette malédiction, accompagné de son frère Billy et de son amie Nina.
Dans la 13e Maison des Bradley, on retrouve de l'amitié entre les personnages, de l'aventure, des péripéties pleines de rebondissements, mais aussi des thèmes comme le harcèlement scolaire. On a beaucoup aimé l'amitié entre Noah, Nina et Billy, les rebondissements de l'histoire et l'aventure de Noah et de ses amis pour briser la malédiction.
On vous conseille donc ce livre, La 13e Maison des Bradley d'Amber Lee Dodd. Merci.
Et bien sûr, la petite lettre sonore qui accompagne ce roman. Elle est écrite de votre main, Thibault, Rodrigue et Bérénice.
Lettre à Noah Bradley, 18 rue Verity Close, changement d'adresse, Angleterre. Salut Noah, c'est Nina, ça va ? Je t'envoie cette lettre à ton ancienne adresse, car je sais que tu fais suivre ton courrier et tu ne m'as pas envoyé ta nouvelle adresse. Bon, enfin débarrassé de la malédiction. Vous devez être soulagé, toi et ta famille. C'était quand même quelque chose, cette aventure. Je n'aurais jamais pensé qu'Elga pouvait être la méchante. Que c'était Monsieur Gray qui était gentil. Elle nous a bien manipulés. Enfin, maintenant, elle est au fond de l'océan. D'ailleurs, sais-tu ce qui est arrivé à Monsieur Gray après notre affrontement contre Elga ? J'espère qu'il va bien. Et comment va ton frère Billy ? Il avait perdu connaissance après la disparition des oiseaux. Ces oiseaux étaient quand même terrifiants. Ils avaient des longues serres qui pouvaient arracher la peau. Je comprends pourquoi vous avez fui ces créatures. Même Elga, qui était sûre d'elle et des pouvoirs des objets magiques, avait eu peur d'eux avant de tomber dans la mer. Heureusement qu'ils sont partis. Sinon, tu aimes ta nouvelle maison ? Je crois qu'elle n'est pas trop loin d'ici. Tu dois être content, tu vas enfin pouvoir rester dans une maison pour de bon. Tu as dû beaucoup voyager quand tu déménageais. Tu as dû voir beaucoup d'endroits différents. Tu pourras me faire voir tes souvenirs et photos ? Bon, maintenant repose-toi bien. On se voit au collège. A plus ! Nina.
La 13e maison des Bradley, un roman d'Amber Leadwood. Dernier roman de cette sélection du prix littérature jeunesse incorruptible.
Le dernier parce que oui, c'est la fin de l'émission en compagnie de Florence Cadier. Merci d'être passée à notre micro.
Mais merci les enfants.
Je rappelle que vous aussi vous êtes dans cette sélection pour un roman écopable aux éditions Talents Haut.
Un grand merci à vous de nous avoir écoutés. Merci et bravo à tous mes camarades de classe pour leurs chroniques et leurs questions.
Vous retrouverez bien sûr cette émission sur le site internet de l'Autre Radio en podcast. Prenez soin de vous, à une prochaine.